coq chante et le jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Il y a 4,2 milliards de la population mondiale, ça veut dire plus de la moitié des terriens, qui n'a pas cet assainissement à disposition. Il y a donc des maladies qui peuvent en découler. Chaque jour, 800 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies diarrhéiques qui sont dues à ces problèmes de manque d'assainissement. C'est comme si les passagers de 3 avions s'écrasaient chaque jour à cause d'une eau de mauvaise qualité.
Aujourd'hui, nous allons parler des questions d'eau potable et d'assainissement dans le monde. Je vous rappelle que le 19 novembre dernier, c'était la Journée mondiale des toilettes initiée par les Nations Unies pour sensibiliser l'opinion au sujet de ces questions. C'est un grave problème de santé publique qui touche tous les pays. Bien sûr, plus on est pauvre, plus on est frappé. Quelques chiffres pour situer la gravité et l'ampleur du problème. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, plus de la moitié de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes, n'avait pas d'assainissement sûr. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, au moins 2 milliards de personnes utilisent une source d'eau potable contaminée par des matières fécales. 299 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année de maladies diarrhéiques en raison d'un mauvais assainissement, d'une mauvaise hygiène ou d'une eau potable insalubre. Pourquoi une telle situation? Tout simplement parce que l'eau est un élément central que l'on retrouve à toutes les étapes de la vie sur Terre. Au téléphone, nous avons interrogé Mme Marie-Lise Massé, qui est directrice générale du Centre d'information sur l'eau.
Tout à fait, je suis directrice du Centre d'information sur l'eau.
Oui.
Qui est une association qui existe déjà depuis 2 décennies,
oui.
Qui a pour objet d'informer le public et les relais d'opinion sur l'eau en général. Alors on parle de l'eau du robinet, on parle des eaux usées, on parle aussi de la ressource en eau.
D'accord, donc vous donnez des informations, vous faites des études à direction des décideurs, du grand public.
Tout à fait. Et nous avons aussi un pôle santé qui permet aussi, grâce à un médecin, de parler de tout ce qui est hygiène, qualité de l'eau, santé et eau. Et puis, nous avons aussi des études que nous faisons régulièrement pour mesurer l'opinion et les comportements des consommateurs vis-à-vis de l'eau.
Oui, parce que l'eau, c'est une question centrale, quel que soit le pays, c'est une question transversale, et quelle que soit l'activité qu'on mène.
L'eau, elle nous sert déjà à exister, hein, puisque nous devons absolument nous hydrater pour que notre corps continue à vivre. Et il faut se rappeler que notre corps est formé à 60% d'eau. Donc vraiment, c'est pour nous vital. Et puis l'eau, elle est vitale aussi pour la nature, pour l'environnement, pour toutes les espèces, végétales, animales, humaines. Et elle sert absolument à toute notre façon de vivre, hein. Notre agriculture, bien sûr, mais nos industries ont besoin d'eau. Toute l'économie mondiale a besoin d'eau.
Et le corollaire de tout ce que vous venez de nous décrire, c'est l'eau et l'assainissement.
Et l'eau et l'assainissement, puisque d'un côté, il y a l'eau que l'on dit l'eau potable, et de l'autre côté, une fois que nous avons utilisé l'eau potable, c'est vrai que nous ne nous en préoccupons plus beaucoup, et pourtant, ça devient de l'eau usée, et qu'il va falloir traiter, puisqu'il est impossible de rejeter des eaux usées au milieu naturel sans l'avoir dépolluée.
Se procurer une eau saine est vital. De même, dépolluer l'eau que nous avons souillée est également vital pour notre santé. Rejeter une eau usée non traitée nous oblige à vivre dans un environnement dangereux.
C'est un vrai problème et c'est d'ailleurs un problème mondial actuellement. C'est vrai qu'en France, on dispose tous, dans notre grande majorité, de toilettes à domicile et puis d'un système d'assainissement des eaux usées. Puisqu'il y a des stations de traitement des eaux usées, il y en a plus de 20 000 qui 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 justement nous protègent de risques sanitaires et de rejets polluants dans les milieux naturels. Mais nous n'avons donc pas la malchance des 4,2 milliards exactement de personnes à travers le monde qui, elles, ne disposent pas d'installations sanitaires qui sont gérées en toute sécurité.
Et je vais essayer de voir le schéma que vous décrivez, c'est-à-dire que pour ces 4 milliards d'individus, d'abord, il y a des problèmes pour s'approvisionner en une eau de qualité. Et même quand on a cette eau de qualité, il n'y a pas de dépollution de cette eau après usage. Parce que ces eaux usées vont aller repolluer l'environnement.
Exactement.
Et l'absence de latrine vient aggraver la situation.
D'abord, comme vous l'avez dit, des ressources en eau qui sont contaminées par les déjections humaines, donc qui sont porteuses de bactéries, de virus, de microbes. Il y a donc des maladies qui peuvent en découler. Et il faut quand même rappeler qu'il y a des maladies qui sont encore nombreuses dans beaucoup de parties du monde. Ensuite, on peut aussi parler de la situation des femmes et des filles qui sont touchées par ce manque d'assainissement. Parce qu'elles, bien évidemment, de par leur éducation, elles vont essayer de trouver un endroit isolé. Quand est-ce qu'elles vont le trouver, cet endroit isolé? La plupart du temps, elles vont le trouver le soir, la nuit. Voilà, elles vont aller un peu plus loin de leur village, elles vont aller en pleine nature. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est reconnu par l'UNICEF qu'elles sont exposées aux agressions sexuelles. Donc on voit qu'un défaut d'assainissement, ce n'est pas simplement un problème de confort, c'est un problème de dignité humaine et un problème aussi pour le développement économique.
Alors, ce que vous décrivez, c'est un peu effrayant parce que on peut prolonger. Ces jeunes filles, ces femmes vont là où elles peuvent avec des risques d'aller s'infecter. Elles reviennent à la maison infectées, monsieur. Ici, on parle de santé, de la reproduction et de la sexualité, qui, à leur tour, vont infecter les enfants et c'est un cycle continu.
Bien sûr, ces maladies sont difficiles à éradiquer sans soins. En plus, nous pouvons être dans des lieux où, effectivement, les soins médicaux sont aussi compliqués. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en mouvement. Vous savez, il y a même des problèmes d'éducation. Les jeunes filles, déjà, ont du mal dans certains endroits, dans certains pays, à aller à l'école. Mais les parents hésitent beaucoup, encore plus, à les envoyer à l'école quand les écoles n'ont pas de toilettes.
Ça veut dire que sans toilettes à l'école, ces jeunes filles passent toute la journée sans aller aux toilettes.
En plus, et les médecins alertent sur ces problèmes-là, bien sûr, puisque ne pas aller aux toilettes de la journée, se retenir, c'est des infections urinaires qui peuvent être graves, hein, et qui peuvent se produire. Donc malheureusement, il y a des populations qui sont confrontées à des risques multiples à cause d'un assainissement défaillant.
Ajoutons que ces latrines ne sont pas toujours aux normes.
Ah ben bien sûr, les latrines communales par exemple, d'abord peuvent souffrir d'un manque d'hygiène, ne sont pas obligatoirement bien raccordées à un système d'assainissement, donc ça veut dire que tout ceci peut se retrouver à court ou moyen terme dans les cours d'eau environnement.
Ou dans les eaux souterraines.
Ou dans les eaux souterraines, bien sûr, et donc polluer les ressources en eau qui sont déjà, dans certains pays, très difficiles à mobiliser en quantité et en qualité, bien sûr.
Ah, ça veut dire que voilà, il y a des pays où déjà on n'a pas la ressource en eau en quantité suffisante pour la vie courante, et on trouve le moyen d'aller polluer ces eaux-là.
En plus.
Alors qu'on n'a pas les moyens techniques pour l'assainissement.
C'est tout à fait ça. Et c'est bien pour ça que cette journée mondiale des toilettes existe chaque année. On pourrait croire que c'est anecdotique, mais en fait, c'est pour attirer l'attention sur ces situations qui sont difficiles. Et cette année, c'est vrai que le focus est porté aussi sur une complexité qui s'annonce avec les changements climatiques.
Chaque année, les Nations Unies retiennent un thème autour duquel s'articulent les différentes activités de la Journée mondiale des toilettes. Cette année 2020, le thème, c'est effectivement eau et changement climatique. Quel lien peut-on faire entre les WC et le bouleversement climatique? Écoutons Marie-Lise Massé.
Eh bien, je vais vous expliquer parce que c'est normal que quand on n'est pas un acteur de l'assainissement ou qu'on n'a pas l'habitude de ça, on ne voit pas justement les implications. Et pourtant, les changements climatiques, ça va être des menaces pour l'assainissement, que ce soit pour les toilettes, les fosses septiques ou les stations de traitement des eaux usées. Pourquoi ? Parce que, en fait, on sait bien que les risques des changements climatiques, ça va être bien sûr la sécheresse, hein, mais ça va être aussi la montée des eaux sur les littoraux, ça va être plus d'inondations, plus de crues. D'accord ? Et il faut savoir que les eaux des crues, eh bien, elles peuvent contaminer les captages qui servent à la production d'eau potable. Elles vont pouvoir aussi endommager les toilettes et répandre ces eaux usées à proximité des populations ou même des productions agricoles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir pollution, il va y avoir des risques sanitaires.
Voyons voir si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de décrire. Je suis dans un village, par exemple, de la savane ou du Sahel, ou même dans une oasis au Sahara, j'ai construit mes habitations en fonction de mon environnement que je connais. Maintenant, le changement climatique amène des bouleversements et je me retrouve avec des inondations alors que mon urbanisation n'a pas prévu ça. Donc j'ai de l'eau partout.
C'est exactement ça. Et quand vous êtes dans un milieu rural tel que vous le décrivez, c'est une chose. Mais vous savez que notre démographie mondiale est en augmentation constante, qu'il est prévu par les experts que nous arrivions à peu près 8-9 milliards d'êtres humains dans quelques années. Toutes ces populations ne vont pas rester dans les milieux ruraux, mais très certainement se regrouper dans des métropoles et sinon des mégalopoles. Et il va falloir vraiment prévoir des assainissements qui fonctionnent parfaitement, pour pouvoir accueillir d'abord toutes ces nouvelles populations, mais également prendre en compte le changement climatique qui, même dans ces métropoles ou ces mégalopoles, peuvent avoir des incidences. Et je dirais que là où il y a un point de fragilité, c'est que vous savez bien que mégalopoles et métropoles attirent dans un premier temps aussi des personnes en difficulté économique qui, bien évidemment, vont aller chercher leur travail dans ces mégalopoles et la plupart du temps ce que l'on voit aussi, ce que l'on risque de voir arriver, c'est des zones autour de ces mégalopoles de taudis, de logements insalubres, etc. Et donc qui pèseront beaucoup aussi là sur l'assainissement et les risques d'un non-assainissement des eaux usées.
En 1970, l'Afrique comptait 365 millions d'habitants, soit 9,9% de la population mondiale. Selon les projections des Nations Unies, la population africaine pourrait doubler d'ici à 2050 pour approcher les 2,5 milliards de personnes. Et en 2100, le chiffre dépasserait les 4,3 milliards, faisant de l'Afrique le foyer de plus du tiers de l'humanité. C'est-à-dire que les besoins augmentent alors que les ressources diminuent. Dans le même temps, les spécialistes estiment qu'il y aura bientôt 1 milliard d'habitants dans les villes africaines. Que l'on appelle ce phénomène exode rural ou migration rurale, les pauvres quittent les villages pour aller chercher les moyens de la survie en ville. Concernant les questions d'eau et d'assainissement, cela veut dire qu'il faut repenser complètement les politiques d'urbanisation.
Tout à fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'études, autant de colloques, autant de conférences internationales qui prennent en charge ces problèmes. Hein. Alors bien sûr, il y a des solutions, hein. Il faut être quand même, il faut rester positif, et il y a des solutions. Parce que justement, vous savez, dans toute crise, il y a du bon à en sortir.
C'est-à-dire qu'on apprend quelque chose.
Exactement. Et la lutte contre les changements climatiques, c'est une opportunité, notamment pour l'assainissement, pour le rendre plus résilient et plus intégré dans l'économie circulaire. Parce qu'on s'aperçoit bien que ces changements climatiques vont devoir nous faire faire des économies de nos ressources, de nos énergies. Et justement, dans l'assainissement, on s'aperçoit que les eaux usées et les boues qui sont produites lors du traitement des eaux usées, eh bien, il ne faut plus les considérer comme des déchets honteux, mais bien comme de l'or gris.
C'est-à-dire donc, que ça peut servir d'engrais, par exemple,
voilà,
dans des sites de maraîchage.
C'est tout à fait ça, parce que les eaux usées, c'est des gisements d'eau, des nutriments et de l'énergie. Si vous voulez, je peux vous donner plusieurs exemples pour illustrer justement ce qu'on peut faire avec les eaux usées.
Je vous en prie.
Alors, on peut déjà réutiliser les eaux usées qu'on assainit, hein, bien sûr, on ne s'en sert pas telles quelles, déjà pour réalimenter les nappes phréatiques. Et ça sera très important pour le changement climatique quand on aura des tensions sur les ressources en eau. On peut aussi s'en servir pour l'irrigation agricole. Je crois que vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, pour
oui,
le maraîchage, etc. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les eaux usées, ça peut paraître étrange à beaucoup, mais en fait, elles dégagent de la chaleur. Parce que vous savez que dans les eaux usées, il y a des bactéries qui se développent, qui mangent justement toutes ces pollutions. Et en les mangeant, elles dégagent de la chaleur. Eh bien, l'ingénierie fait qu'on va pouvoir se servir de cette chaleur. Et là, on va avoir une énergie qui est bien sûr plus verte et qui va permettre, du même coup, de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Et qui est disponible, puisqu'il y en a partout.
Exactement, exactement.
Mais tout ce que vous décrivez, il faut beaucoup d'argent pour tout ça.
Oui, déjà, dans nos pays, à nous, en Europe, dans les pays du Nord, c'est vrai que chaque consommateur, vous savez, paie l'assainissement dans sa facture. Ensuite, il y a des subventions qui sont données par les pouvoirs publics et en France notamment par les agences de l'eau pour arriver à avoir des systèmes d'assainissement comme ça qui d'un côté font leur travail d'assainissement et de dépollution. Pour les pays du Sud, pour le moment où un gros travail déjà pour arriver à avoir un assainissement de base.
Et il faut d'abord sensibiliser déjà.
Il faut sensibiliser, il faut que les gouvernements acceptent de faire ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, justement, pour montrer que l'assainissement, c'est pas simplement des tuyaux, mais que c'est un début pour le développement économique et pour la santé publique. Parce que sans santé publique, vous n'avez pas de développement économique. Hein.
Des gens là, c'est pas
malades, possible. Qui sont malades ne peuvent pas aller travailler et donc faire du développement économique. On ne le voit pas, mais nous avons de la chance. On a de l'eau en quantité quand même.
Je vous remercie.
Mais je vous en prie.
À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes édition 2020, nous étions en compagnie de Madame Marie-Lise Massé, qui est directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr, et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.